Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 127, pour le samedi 15 octobre 2011, un balado néerlandophone. Aujourd'hui, je suis avec Joseph Van Giel, qui est un podcasteur ou un baladodiffuseur. Il réalise un balado donc en Belgique, mais destiné à un public flamand, qui s'appelle Kritisch Denken. On va parler un peu de ton podcast, mais est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire qui tu es ?
Oui, d'accord. Donc, comme tu as dit, tu viens de dire, je suis Joseph Van Giel. Donc, j'habite dans la région de Bruges. Je suis dans les environnements sceptiques depuis à peu près, je pense, 12 ans maintenant déjà. Et je fais mon podcast depuis deux ans. Professionnellement, je travaille dans une grande entreprise d'acier. Et je pense que c'est ça. J'ai deux enfants et une femme.
Qu'est-ce qui t'a amené à créer un podcast consacré au scepticisme scientifique ?
Ben, j'étais donc, comme je disais, je suis déjà 12 ans dans le domaine. Et il y a quelque temps que j'ai commencé à détecter les podcasts, mais c'était toujours en anglais. Et donc, à un certain moment, j'avais détecté The Skeptic's Guide to the Universe et Skeptoid et tous ces podcasts sceptiques anglophones. Et peu à peu, j'ai commencé à chercher des bons podcasts en néerlandais, mais ça n'existait pas. Donc, certainement, j'ai simplement décidé d'en commencer un moi-même. Surtout car on a beaucoup de discussions avec des gens qui parfois font des erreurs de réflexion, et c'est pas toujours facile pour expliquer. Pour prendre du temps pour expliquer et leur diriger vers ton podcast. Parfois, c'est un peu plus facile pour expliquer.
Et tu as un co-hôte aussi, quelqu'un qui fait le podcast avec toi ?
Donc, il y a la majorité des textes que j'amène dans le podcast sont des textes que je trouve qui sont intéressants. Il y a seulement une minorité de textes que je crée moi-même et alors, il faut faire beaucoup de la recherche. Je pense que je ne dois pas te dire ça. Et donc, quand je trouve des sources très intéressantes, presque toujours en anglais, j'ai un ami que j'ai appris à connaître dans le club SCEP, donc le club sceptique flamande, qui fait les traductions pour moi. En effet, ça avait commencé d'abord par mes textes que j'avais écrits moi-même. Et je lui ai envoyé mes textes. Et lui, il les corrigeait. Parce que lui, il est un professeur. Donc, il était professeur parce qu'il est entre-temps en pension. Et donc, il est un peu puriste sur les fautes, les erreurs de... et de linguistique, donc il me corrigeait mes textes. Et peu à peu, il a commencé à traduire mes textes. Et entre-temps, lui, il est devenu un freak de traduction, de construire des sous-titres pour TED Talks. Donc, il a un full-time job pendant son pension.
Et quels sont les sujets que tu aimes bien couvrir sur ton balado, un peu tes spécialités ou les choses qui t'intéressent particulièrement ?
J'ai un domaine assez large et donc j'ai écouté un de tes premières ou ta première émission et tu as expliqué aussi que tu as dû faire le choix entre le scepticisme pur et la religion et qu'il y a beaucoup de sceptiques qui décident de ne pas parler de la religion pour des raisons parfois plutôt stratégiques. Et donc, moi, j'ai fait cette réflexion aussi. Et je suis venu à la décision de quand même parler aussi de la religion. Donc, ça, c'est un point, mais c'est pas le point le plus important. Donc, les premiers 10 épisodes de mon podcast, c'était les sophismes, logical fallacies en anglais. Et donc j'ai nommé les plus importants et essayé de les expliquer. Et ensuite j'ai commencé avec les différents sujets sur lesquels on peut les utiliser. Donc j'ai commencé à discuter sur l'homéopathie, ensuite la phytothérapie, les herbes chinoises, l'acupuncture, et comme ça j'ai commencé à construire les différentes émissions. Donc entre-temps, je suis déjà au 103e qui va être publié ce dimanche. Donc pas mal de sujets. Mais beaucoup plus aussi de sujets sur la religion aussi qui sont venus. Pourquoi ? Parce que je trouvais beaucoup d'articles qui étaient très intéressants sur le sujet aussi. Et de plus en plus, je commence à être conscient que c'est très difficile à splitter les deux, parce que tu trouves tous les sophismes qui existent aussi dans les religions. Donc, c'est difficile à les splitter.
Oui, tu évoquais le SCEP, donc l'organisation néerlandophone, flamande, sceptique en Belgique, puisque chez nous, on a une situation dans l'organisation francophone, le comité para et le SCEP du côté néerlandophone. En quelle manière tu es connecté à cette organisation? Tu en es membre? Tu es actif dans ce groupe?
Oui, donc je suis membre. Donc ça veut dire que je paye chaque année l'amont pour rester dans le club, mais je suis pas actif. Et j'ai choisi explicitement pour ça, pour de différentes raisons, parce que à un certain moment, le président de SCEP m'a demandé aussi de devenir membre de l'équipe active. Et à ce moment-là, j'ai décidé de ne pas le faire. Et une des raisons, c'était parce que je voulais quand même garder une certaine indépendance avec mon podcast. Surtout aussi, hein, à cause de ce que je venais de dire, c'est que SCEP, c'est une de ces organisations qui a décidé de ne pas explicitement parler de la religion. Donc, bien sûr, il parle du créationnisme et ce type de choses un peu extrêmes, mais pas de est-ce que le scepticisme est compatible avec la religion, même dans le mode le plus abstrait qui existe.
Oui, de manière plus générale, quelle est la situation, d'après toi, du scepticisme du côté de la Flandre et aussi de la Hollande? Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont particuliers de ce côté-là de la frontière linguistique est-ce que tu penses que c'est populaire? Parce que, par exemple, en francophonie, du côté francophone, c'est le scepticisme, ou on appelle ça aussi parfois la zététique, c'est pas très populaire comparé au monde anglo-saxon. Donc, quelle est la situation un peu chez vous?
Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est assez comparable avec le monde francophone, hein. Parce que ce qu'on voit, et je pense que tu peux me confirmer ça, c'est que dans le monde anglo-saxon, c'est parfois très agressif, et je pense que c'est un peu dans la culture, hein, parce que si tu regardes par exemple les élections présidentielles et tout ça, c'est aussi beaucoup plus agressif que chez nous, et ça s'amène aussi, je pense, dans la discussion sur le scepticisme et les believers, hein. Donc chez nous, c'est la popularité n'est pas très élevée non plus. Donc pour te donner un peu une vue là-dessus, donc SCEP, par exemple, a à peu près 600 membres. L'organisation hollandaise, dans ce même domaine, a, je pense, quelque chose comme 2000 membres ou quoi. Je connais pas le chiffre exact, mais ça doit être cet ordre de grandeur. Ce qui n'est pas énorme, hein, c'est sur une public de 20 millions d'habitants. Si je regarde, par exemple, à mon podcast, moi, j'ai à peu près entre 700 et 1000 personnes qui écoutent, et la majorité sont des Hollandais. Donc c'est un peu un phénomène à côté. Par contre, on arrive quand même assez régulièrement de se présenter à la télévision et tout ça, comme par exemple l'année passée, début de cette année, c'était facile à se raccorder. C'était le 6 février. On a fait à Bruxelles une action concernant la dilution de l'homéopathie. Donc, il n'y a plus rien dedans. Et ça, quand même, ça s'est quand même venu à la télévision. Donc, ça va, mais la majorité des gens trouvent ça quand même une équipe de gens qui sont un peu rares. Hein.
Oui, est-ce qu'il y a des sujets que tu as l'impression sont des problématiques plus aiguës ou enfin particulières à la Flandre et à la Hollande qu'on ne trouverait pas aux États-Unis ou pas en France ou pas en Belgique francophone?
Donc, c'est ce que tu vois qui est très actuel régulièrement, c'est comme tout ce qui a à voir avec les médecines alternatives. Et je pense que l'homéopathie maintenant est un peu moins est un peu moins centrale à cause aussi de les expressions des centres médicaux qui ont encore une fois dit que ça ne marche pas. Et donc, mais par contre, c'est ce que tu as de plus en plus, c'est quelques soi-dit docteurs qui font des choses peu rares, comme par exemple Robert Gorter, qui a travaillé pendant un long temps en Belgique, ensuite aussi aux Pays-Bas, et je pense que maintenant il est en Allemagne, et ça c'est le pire encore de tous, hein, contre le cancer, où il attrayait des malades qui étaient terminales et leur faisait payer des amendes très grandes. Et ce qui s'est passé avec ce gars en plus, c'est qu'à un certain moment, SCEP a publié un article sur lui sur leur site. Et tu peux deviner ce qui s'est passé, c'est que le gars, il est allé au cours et il a commencé à faire un
procès en diffamation. Ouais.
Et donc ça, ce sont des choses qui parfois deviennent quand même assez fortes. Hein.
Ouais.
Il y a quelques années aussi, aux Pays-Bas, il y a eu une dame qui disait qu'elle pouvait guérir. Elle s'appelle Yomanda. Qui disait qu'elle pouvait guérir le cancer seulement en pensant aux gens. Donc vraiment paranormal jusqu'au bout. Et il y a eu tout un scandale parce que il y avait une actrice très connue aux Pays-Bas qui s'est fait donc traité par elle et elle est morte à cause d'un cancer du buste qui pouvait être guéri encore si elle était allée directement à une thérapie traditionnelle avec
c'est une chimiothérapie, sûrement.
Et donc, oui, donc ça, ce sont les choses qui se passent dans le monde sceptique dans notre région.
Oui, alors tu disais quand même, quand on échangeait par email et au début de cette interview, que tu avais eu l'idée de faire un podcast à cause du Skeptic's Guide for the Universe. C'est quand même marrant que ces podcasts donne envie à d'autres personnes d'en faire comme ça. T'es très fan de leur podcast avant de te lancer.
C'est celui que j'écoute le premier de tous dans ma voiture le lundi. Donc normalement moi le dimanche soir je vais charger tous les podcasts que j'aime et celui-là c'est toujours le premier que je commence à écouter. Je le trouve très bien hein, parce que ils ont une formule assez unique avec ces cinq gars qui se discutent et ils rigolent mais entre temps ils racontent des histoires qui sont pas du tout stupides hein. Et ça c'est quand même une belle formule mais on a besoin quand même de beaucoup d'énergie et des gens qui sont capables de réserver du temps pour faire quelque chose comme ça hein.
Oui, moi j'avais essayé de trouver des gens aussi en me disant que c'était mieux d'avoir deux, trois personnes qui discutent, mais ça demande de faire une soirée par semaine, complètement bloquée. Enfin, c'est du boulot. Enfin, oui, comme tu dis, trouver des gens motivés, c'est difficile. Hein.
Oui. Et ça, c'est aussi quelque chose que tu vois dans le monde sceptique, c'est qu'il y a plein de gens qui sont très enthousiastes et qui veulent devenir aussi membres de nos clubs. Mais quand on demande pour prendre d'action et faire quelque chose activement, alors il y en a beaucoup moins, hein, parce que tout le monde le supporte pour commencer à travailler dessus. Bien sûr, tout le monde a sa vie et son travail et sa famille. Et investiguer sur le scepticisme, ça prend quand même beaucoup de temps. Hein. Dans mon cas, ça prend presque tout mon temps libre. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi aussi.
Oui, oui, moi aussi, oui, ça prend. Réaliser un podcast sur un sujet comme ça prend énormément de temps. Surtout chaque semaine, c'est un rythme soutenu, c'est pas évident. Hein. Moi, comme tu vois, je réalise régulièrement, enfin, le plus souvent, je réalise des interviews. Est-ce que ça t'arrive d'interviewer des gens ou tu ne prends jamais que des textes?
Non, jusqu'à maintenant, je suis pas arrivé à interviewer des gens. Donc, mais j'ai eu le plan de faire ça. Et pour ça, j'ai acheté spécifiquement un petit graveur qui est portable pour pouvoir faire ça. Mais je suis pas encore y arrivé pour le faire. Par contre, ce que j'ai fait, c'est une de mes émissions, c'était un speech qui était donné par un gars en Flandre qui a un sujet de scepticisme très unique. Et il avait parlé à la dernière réunion de SCEP. Et le gars s'appelle Patrick Vermeer. Et lui, il a étudié pendant beaucoup de temps les pseudosciences dans le métier. Donc, surtout sur le monde RH. Il a écrit un livre où il décrit 10 pratiques qui sont fréquemment encore utilisées dans le monde RH, qui sont du pseudo-science. Donc, je ne vais pas les nommer tous, mais donc les plus importants qu'il nomme, c'est NLP, hein, Neuro-Linguistic Programming, MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, et ce type de choses. Et je dois dire, moi, j'ai été traité en MBTI il y a, je pense, 10 ans déjà dans mon boulot. Je me suis jamais posé des questions là-dessus. Donc, j'étais très surpris d'avoir lu son livre. Et ce qui est remarquable en plus, c'est qu'il a écrit aussi un livre sur leadership, qui en plus, pour ton info, a été traduit en français aussi. Très bon. J'ai lu plein de livres sur management et... Mais il n'y a aucun qui arrive au niveau que Patrick Vermeer a fait. Et là, pour la simple raison qu'il a une attitude sceptique et il a fait de la recherche dans la littérature scientifique au lieu de justement écouter des gourous. Hein. Et donc, ça démontre que notre monde va beaucoup plus loin que seulement... l'astrologie et les médecins alternatifs et tout ça. Hein.
Oui, c'est clair. Et tu me disais aussi dans un de tes emails que récemment, le SCEP avait honoré Jacques Van Rielaar, j'ignorais, donc tu peux nous en dire un peu plus.
Oui. Donc Jacques, je pense que tu m'avais... tu m'avais commenté que tu as eu des leçons de lui, donc c'est ce que je vais te dire, je pense que tu le sais beaucoup mieux que moi, c'est que Jacques était quelqu'un qui a fortement aussi lutté contre le freudianisme et la parapsychologie.
Psychanalyse.
Psychanalyse. Et donc, il a écrit quelques livres là-dessus. Il est et donc à cause de ça, à cause de ses remarques, ses efforts là-dessus, chez SCEP, ils ont décidé de le nommer aussi. En plus, c'est un gars qui parle très bien le néerlandais. Hein. Et donc, comme tu me disais, que tu me demandais si je faisais parfois aussi des reportages. Alors, je voulais lui demander si je pouvais le reporter. Mais finalement, il y a eu des problèmes avec ça. D'abord, il n'était pas trop pour parce que il voulait pas faire un reportage dans une autre langue que sa langue naturelle ou maternelle. Et en plus, je suis pas y arrivé parce qu'il y avait plein de bouchons à Bruxelles. En plus, il y avait encore une activité au dernier moment dans mon travail, donc je suis parti tard et je suis jamais arrivé à la session là. Donc, c'est dommage parce que j'avais voulu l'écouter aussi parler.
Très bien, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que les gens qui voudraient en savoir plus sur ton podcast et ton blog, tu peux nous donner où ça se trouve sur Internet?
Oui, donc mon website est simplement www.kritischdenken.info. Donc, kritischdenken, c'est écrit comme KRITISCHDENKEN.
Donc, très bien.
En plus, j'ai fait une page entre-temps où je mets des liens à des différents podcasts en autre langue. Et donc, le tien est dedans aussi maintenant.
Ah oui, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Tu m'avais donné le lien, mais combien de podcasts as-tu trouvé qui ne soient pas en anglais jusqu'à présent?
Pas trop encore. Donc, j'ai le tien en français. J'ai trouvé un en italien. Et c'est tout. Donc, on est en train de chercher encore d'autres. Donc, si t'es...
Mes auditeurs connaissent, ils peuvent t'envoyer le lien, te le communiquer. Très bien. Ben, en tout cas, merci d'avoir accepté cette interview aussi dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle. J'ai moi-même fait des interviews en anglais pour des podcasts, d'autres oui. podcasts, et c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile.
Ok.
Et voilà, à une prochaine, si tu as l'occasion de venir une fois au Skeptics in the Pub ou quelque chose à Bruxelles, qu'on se rencontre, ce serait chouette.
Oui, oui, très bien. En plus, c'est ce que je dois te dire, c'est que à cause de ta remarque concernant Skeptics in the Pub, j'ai mis ce message sur Skype, hein, que peut-être on pourrait faire quelque chose comme ça aussi. Et les gens étaient très enthousiastes, donc il y a partout maintenant des gens qui sont en train de penser pour faire ça aussi à Anvers, à Genk, à Gand, partout. Donc peut-être va venir encore quelque chose.
Oui, oui. Alors, j'ai vu effectivement, tu m'as mis dans un mail que tu avais mis le lien sur le site de Skept, et directement j'ai eu des gens qui s'inscrivaient sur la mailing list. Donc j'ai vu waouh. Beaucoup de gens du Skept intéressés par l'idée de faire des Skeptics in the Pub. Bah, c'est vrai que c'est sympathique, hein. Il y a une bonne ambiance, on boit une bière et on discute, c'est chouette, quoi. Allez, bah, encore merci, à une prochaine, alors.
Ok, merci à toi.
Ciao. Project Barnum was created to provide information pertaining to the use of psychological tricks by self-titled mediums and psychics while on stage or in private readings. Project Barnum will also provide advice to those who think they have already been misled. Project Barnum. See them coming.